Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Sur AMC dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. On est toujours à la mi-temps de Strasbourg-Clermont. 7e journée de Ligue 1, 0-0 pour le moment. On va en parler tout au long de la journée de cette Ligue 1 sur AMC avec le multi à 15h dans l'Intégral Sport de Benoît Boutron avant l'affiche ce soir à 20h45 entre Monaco et Lyon. Encadré évidemment par l'after de Thibaut Giangrande puis Gilbert Bribois. Maxime Tilliette et Jeannot Rességuier seront en commentaire ce soir et Maxime est avec nous. Salut Max.
Salut Flora, salut Manu, salut Max. Bonjour à tous.
Belle affiche hein, ce soir à Louis II où Monaco d'ailleurs n'a pas gagné encore cette saison en 4 matchs toutes compétitions confondues, Maxime.
Oui, tout à fait, toujours pas de victoire. Il y a eu ce match nul en tout début de saison face au PSV Eindhoven. Et puis ensuite, un nul face à Rennes où Monaco avait fini à 10. Une défaite face à Lens où Monaco avait fini aussi à 10. Et puis une autre défaite face à Troyes où Monaco avait encore une fois fini à 10. Mais sur ces 3 matchs, donc des cartons rouges. Et puis 2 derniers matchs à Louis II avec 4 buts encaissés.
On entend des voitures derrière toi. Rassure-moi, t'es pas sur le Grand Prix de Monaco, là. C'est tout à l'heure, la F1.
Non. Mais on va pousser derrière Charles Leclerc en pôle à
Monza. Tu m'étonnes. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc Roy de ce Grand Prix de Formule 1. Aucune victoire cette saison à domicile, on l'a dit. Mais en plus, 3 rouges en 3 matchs cette saison à Louis II. Le coach Philippe Clément aimerait déjà, avant toute chose, régler ce problème.
Je pense qu'on doit commencer de jouer avec 11 tous les matchs parce que les derniers 3 matchs en championnat, c'était 3 fois carton rouge. Ça, c'est aussi pour moi la grande raison des résultats. Et nous avons joué jusqu'à maintenant presque tous les matchs contre des adversaires qui ont des qualités plus proches ou mieux que nous. Si on avait les 3 points contre toi, je pense qu'on pouvait dire que le début de saison était bien en championnat.
Ouais, Manu, le début de saison bien en championnat, on est un peu plus mitigé nous quand même.
Ouais, le fait qu'ils se qualifient pas pour la Champions League, ça a quand même amené une certaine dynamique, mais quelque chose qui est cassé parce que ils y pensaient réellement pouvoir se qualifier pour cette Champions League. Après, ils ont pas su non plus aborder les matchs comme ils auraient dû le faire. Quand tu perds contre 3 4-2, même si tu es à 10, c'est pas non plus une équipe 3 qui est au-dessus vraiment de Monaco. Sur le papier, à 10, ils auraient pu faire la différence. Maintenant, c'est à eux aussi à se mettre les pieds à l'endroit et ne pas prendre de carton, ou alors peut-être commencer à 10 un match et faire rentrer peut-être le 11e après pour pouvoir essayer de gagner des matchs. Mais bon, ils ont gagné contre Nice le dernier match, ça peut amener une certaine dynamique aussi et du moral, puisqu'ils ont gagné aussi en Europa League contre l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0. Donc voilà, en gagnant les matchs au fur et à mesure, Monaco va peut-être se mettre à l'endroit dans leur tête.
Ouais, c'est vrai que les matchs s'enchaînent pour l'ASM, tu t'en as parlé, cette victoire cette semaine face à l'Étoile Rouge en Ligue Europa, Lyon donc ce soir, la réception de Ferencváros avant d'aller à Reims la semaine prochaine. Mais Max, c'est difficile quand même de faire tourner hein, pour le coach dans ce match-là aujourd'hui face à Lyon.
Ouais, c'est compliqué parce que c'est un duel face à une équipe, un concurrent direct dans la course à l'Europe, et puis match capital pour Monaco parce que en cas de victoire, Monaco reviendrait à 2 points des Lyonnais, un concurrent donc, mais en cas de défaite, Lyon prendrait 8 points d'avance, donc c'est capital, et c'est pourquoi on devrait voir notamment associé pour une 5e fois consécutive la doublette Fofana-Camara dans l'entrejeu.
Et c'est vrai que si on regarde les stats quand même, Manu, notamment de Wissam Ben Yedder, qui aime particulièrement jouer face à Lyon, est décisif 11 fois en 16 matchs. Est-ce que justement ce match-là pourrait pas lui permettre à lui personnellement de lancer enfin sa saison? On sait qu'il a toujours pas marqué hein, cette saison en Ligue 1.
Oui, ça peut permettre, mais bon, c'est pas non plus l'adversaire idéal parce que Lyon, ils ont perdu contre Lorient en semaine. C'est une équipe qui a besoin aussi de jouer les premiers rôles parce que Ola se fait du recrutement et une équipe sur le papier pour finir et terminer en Champions League. Donc pour lui, ça sera pas évident. Déjà, il faut qu'il joue. C'est peut-être pas sûr parce que il y a quand même de la concurrence en attaque à l'AS Monaco et je crois que l'entraîneur n'est pas dans l'optique de se dire aujourd'hui, si je prends les trois points, je vais être à deux longueurs de Lyon. Je crois que l'entraîneur, il est dans l'optique de faire dans la continuité du match de Nice contre l'Étoile Rouge de Belgrade et de pouvoir avancer, mettre ses pions au fur et à mesure et prendre les points, les trois points qui seront très importants, surtout pour Monaco, parce que Lyon, ils ont 13 points, même s'ils venaient à perdre, ils resteraient toujours dans le haut du tableau.
Oui, parce que la seule défaite, on a parlé pour le moment de cette saison, c'est celle concédée cette semaine en match en retard face à Lorient pour Lyon. Maxime, surtout quand on voit le calendrier qui attend les Lyonnais, PSG, Lens, Rennes notamment, même s'il y a la trêve entre-temps, une victoire quand même, elle serait importante pour justement bien entamer cette dynamique.
Ah mais c'est sûr que là faut pas perdre de temps. En plus on l'a déjà évoqué, mais c'est une saison avec un calendrier qui est un peu chamboulé avec cette Coupe du Monde en plein milieu. Va falloir repartir, reprendre de l'élan. Ça va être compliqué sur la deuxième partie de saison. On sait pas trop. Enfin c'est quand même une grosse incertitude. Donc prendre un maximum de points d'entrée, c'est sûr que c'est un enjeu primordial pour cette OL. En plus Peter Bosz, là il a fait la préparation complète. On est de moins en moins indulgent avec lui et les faux pas comme contre une équipe face à Lorient cette semaine. Bon, on va pas lui pardonner à chaque fois.
Ouais, ça fait un peu tâche. Réaction attendue donc de Lyon, mais pour le coach Peter Bosz, la seule défaite face à Lorient doit suffire à faire réagir ses joueurs.
Tu vois, Lyon n'a pas la Coupe d'Europe, donc alors que Monaco, PSG, Lens, qui vont rencontrer par la suite, eux jouent la Coupe d'Europe. Et donc ça risque d'être compliqué aussi.
Justement, je voulais juste qu'on écoute Manu Peter Bosz justement sur cette réaction attendue de ses joueurs, parce que c'est pas forcément lui qui a besoin de les piquer, comme il dit. Seule la défaite peut les faire réagir.
À mon avis, ça ne doit pas être nécessaire de piquer, parce que si tu as un joueur professionnel, ça doit venir de toi-même. Le fin de gagner, de faire des choses au fond à 100%. Mais en même temps, la plupart du groupe est jeune aussi, donc de temps en temps, il faut piquer, c'est vrai.
Dernière petite question, Manu, mais juste avant, on va aller à la méno Sébastien Ruffet, parce que c'est reparti entre Strasbourg et Clermont. Il y a du changement.
Ça vient de repartir. 10 secondes ici à la méno, toujours 0-0, bien sûr. Et un changement, effectivement, Ludovic Ajor qui est sorti, sans doute touché, blessé, remplacé par Kevin Gamero.
On revient te voir dans quelques instants. On termine juste sur ce Monaco-Lyon ce soir à 20h45. Manu, je voulais t'entendre aussi sur le retour dans le groupe lyonnais d'Oussem Aouar, qui, on le rappelle, était absent depuis la première journée.
Ouais, ça peut faire que du bien à cette équipe-là. Moi, je suis pas très d'accord par rapport à ce qu'il a dit l'entraîneur Bosz, parce que il doit mettre aussi lui tous les ingrédients aux entraînements, la motivation, l'envie, la technique, la tactique, les entraînements pour pouvoir aller plus haut et pour pouvoir que ses joueurs se sentent bien dans le schéma tactique que lui il veut mettre en place. Donc et c'est sûr qu'un joueur comme lui avoir très technique va apporter énormément à Lyon ce soir.
Merci beaucoup Maxime Tillier d'avoir été avec nous. Tu vas commenter ce match tout à l'heure avec Jeannot Rességuier, 20h45 pour ce Monaco-Lyon, avant match dès 20h dans l'after évidemment avec Thibaut Giangrande. Merci Max.
À ce soir, bon après-midi Max.
À ce soir, on reste à la Ligue 1. Nous on suit ce Strasbourg-Clermont, c'est reparti en seconde période. Manu et Sébastien, on attend enfin que les Strasbourgeois puissent concrétiser leurs nombreuses occasions en première période.
Ouais, effectivement, c'est vrai que les situations ont été nombreuses, avec notamment deux barres transversales qui ont été touchées, une par Thomasson et une sur une tête de Maxime Lemarchand. D'autres occasions avec Adrien Thomasson également sur son pied gauche. On a vu aussi Habib Diallo. Il y en a eu plusieurs, des assez franches. C'est pas des fois des situations comme on les appelle, ce sont des occasions de but franches que les Strasbourgeois ont eues. Côté Clermontois, pas grand chose à signaler, si ce n'est peut-être une situation pour le coup qui a été rapidement dégagée par les Strasbourgeois, et donc cette domination, il faudrait effectivement la concrétiser pour les Strasbourgeois pour enfin lancer ce championnat. On rappelle 4 nuls et 2 défaites pour l'instant, toujours pas de victoire dans ce championnat 2022-2023, et il serait temps pour les Alsaciens d'enclencher un petit peu la marche avant, alors que les Clermontois, eux, ont déjà signé 3 victoires. Ils savent ce que ça fait de célébrer une victoire, ils savent le goût que ça a. Avec aujourd'hui 9 points au classement, ils sont 8e, ils sont plutôt sereins finalement dans un déplacement comme celui-ci, puisque les points sont déjà là. On sait qu'on est capable de le faire, alors que côté strasbourgeois, la pression est un petit peu différente quand même, puisque une victoire, même si les matchs nuls ça rapporte quand même quelques points, mais pas beaucoup, comme dirait coach Courbis, avec la victoire à 3 points évidemment ça change beaucoup de choses, et il va falloir que les strasbourgeois mettent le coup couvercle sur ce match qu'il domine depuis le début de la première mi-temps. Dès la première minute, il y avait déjà une première grosse occasion. Donc voilà, on est parti depuis 3 minutes. Il y a eu un changement. Je vous le rappelle, Kevin Gamero a remplacé Ludovic Ajorque, sans doute un petit peu touché physiquement, pour essayer lui de trouver cette efficacité. Voilà, 0-0 entre Strasbourg et Clermont.
Manu, quand on est joueur de Strasbourg là, qu'on a déjà touché deux fois la transversale, les montants, est-ce qu'on commence un petit peu à s'agacer ou à se dire que ça va être compliqué aujourd'hui, qu'on joue de malchance?
Non, il faut pas se dire ça. Au contraire, je pense que l'entraîneur a dû encore les motiver et leur dire, il faut continuer dans cette voie-là. Il faut peut-être récupérer le ballon plus haut pour amener le danger devant la surface de Clermont, et surtout éviter tous ces contres. Donc, avec de la prudence quand on a perdu le ballon ou quand on va récupérer le ballon assez haut, et aussi du mouvement au porteur du ballon pour pouvoir soit sur un centre, soit sur des 1-2, comme on a vu en première mi-temps, c'était un super ballon à 1-2 où Thomasson a mis ce ballon sur la barre transversale. Donc voilà, continuer dans cette voie-là, mais aussi rester un peu prudent parce que clairement, même s'il recule pour aspirer l'adversaire, en contre, ça peut aller très vite.
Voilà, un corner pour les Clermontois avec Cham avec son pied gauche là-bas. Ça va être rentrant. C'est pas mal tiré. Ce sera Djikou qui va la repousser une première fois et Diarra une deuxième fois pour vraiment envoyer loin ce ballon. Il va tout de suite au pressing. Intéressant ce qu'a fait Habib Diarra, même si derrière ça n'a pas suivi, et ça permet au Clermontois avec Coffrier sur le côté gauche de pouvoir construire un petit peu. Manien, voilà, on sent que peut-être la consigne de Pascal Gastien à la mi-temps, c'était de dire les gars, faut qu'on maîtrise un petit peu plus le ballon, qu'on le fasse un petit peu plus tourner, qu'on arrête de le perdre dans des zones un petit peu dangereuses en phase de construction, parce que derrière c'est sûr que ça va vite, on n'est pas en position. Donc voilà, un peu plus de peut-être de sérénité, on va dire, chez les Clermontois à l'approche de cette deuxième mi-temps. Ballon pour Borges sur le côté gauche. Est-ce qu'il y aura une faute? Oui, faute signalée contre Colin Dagba. Et un coup franc, voilà, un bon coup franc là, peut-être pour les Clermontois à venir. Alors qu'on joue depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0 entre Strasbourg et Clermont. Et là, c'est un coup franc qui est à 20-25 mètres, complètement décalé. On est pratiquement le long de la ligne de touche. Mais ça peut faire si c'est bien centré, si c'est bien touché par, je pense que c'est Cham qui va le tirer, qui s'est positionné. Ça peut être dangereux, c'est sur un coup franc de ce style, tout à l'heure, que les Strasbourgeois ont tapé la barre avec Maxime Lemarchand. Donc il y a peut-être un coup à jouer pour les Clermontois. L'arbitre qui a été très chahuté par le public de la Méno à la mi-temps lors de sa sortie, parce qu'il y a eu plusieurs situations un petit peu litigieuses. On en a discuté nous-mêmes à l'antenne. Il a demandé à Kevin Gamero de faire attention à ses mains pour contrer ce ballon. Attention, c'est parti, c'est tiré pied gauche, il est tout seul, il est l'arrêt. Oh, quel arrêt de Maltsels! Il était complètement seul là sur ce coup, peut-être même trop, puisqu'il y aura finalement un hors-jeu. Mais alors, quel arrêt de Maltsels à bout portant. Il était aux 6 mètres, c'était me semble-t-il Maximiliano Coffrier qui reprit avec son pied gauche à bout portant et la manchette, l'horizontale de Maltsels. Mais qui, c'est toujours intéressant et important pour un gardien, même quand le hors-jeu a été signalé par la suite. C'est important de montrer qu'on est là, qu'on est présent, et que pour marquer des buts, il va falloir faire mieux que ça côté Clermontois. C'est déjà reparti côté Strasbourgeois avec Jean-Yves Daoulou qui va peut-être se tromper vers Adrien Thomasson. Le ballon n'était pas très très bien donné. C'est un petit peu décousu pour l'instant là, ce début de deuxième mi-temps. Va falloir que quelqu'un remette un petit peu le pied sur le ballon. 51 minutes de jeu à la Méno, toujours 0-0 entre Strasbourg et Clermont.
14h12 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique.
RMC,
le défi hippique.
Depuis l'hippodrome de Longchamp avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Salut Flora, salut Manu, salut à tous. Effectivement, en direct de l'hippodrome de Longchamp, puisqu'aujourd'hui se disputent les Arx Trials, des courses préparatoires au Prix de l'Arc de Triomphe qui est programmé le 2 octobre prochain. Mais le Quintet Plus aujourd'hui qui nous intéresse, ce n'est pas une des Arx Trials, mais c'est un grand handicap avec 14 concurrents qui s'affronteront sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste. Il y a deux noms partants, le numéro 12 et le numéro 16, Red Torch. Et pour le défi, on a un nouveau parieur au 32-16. Salut Ilan.
Salut. Bonjour à tous les gars.
Tu choisis qui aujourd'hui dans ce quintet qui est très ouvert?
Il est ouvert. Moi, je prends le 14 Brevert. Un cheval allemand qui est en forme, qui a bien gagné l'autre jour avec un peu de marge. Bon numéro de corde, à mon avis, il peut bien se placer.
C'est noté. Manu, t'as une petite idée dans ce quintet?
J'hésite entre l'As King Gold et le 5, le président. Je vais prendre le président parce qu'il a déjà gagné sur cette distance et il a fait en 1-21-28. C'est assez vite quand même.
D'accord, c'est noté. Alors la dernière minute RMC, ça sera le numéro 8, Milfield, qui apprécie ce parcours puisqu'il s'est déjà imposé. Et en plus, il a un bon numéro de corde. Le numéro 2, c'est un avantage sur ce parcours. Il y a 9 contre 1. Je rappelle la règle. Si le numéro 14, Brevard, termine devant le numéro 8, Milfield, Ilan, tu seras de nouvelles tout demain. Je vous souhaite bonne chance et un bon quintet.
Merci beaucoup, Fred.
PMU. Merci. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, rapidement à la méno, Sébastien. Le temps, le score entre Strasbourg et Clermont.
Eh bien, pile 53 minutes ici et 0-0 entre Strasbourg et Clermont.
14h14 dans l'Intégral Sport. On revient dans quelques instants sur RMC pour la suite de cette 7e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et Clermont, toujours 0-0. Et puis on parlera Formule 1 à 15h. C'est le départ du Grand Prix d'Italie. On sera avec Jean-Luc Roy dans quelques instants.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
14h18 sur RMC. Merci à vous si vous nous rejoignez dans l'Intégral Sport. On suit la 7e journée de Ligue 1 Strasbourg-Clermont avec Manu Amoros et Sébastien Ruffet à la méno. Et toujours pas de but dans ce match, Sem.
Et non, toujours pas, après pratiquement 58 minutes dans cette rencontre. Des Strasbourgeois qui ont très copieusement dominé la première période, qui ont eu plusieurs situations, notamment deux barres transversales qui ont été touchées et qui ont un petit peu plus de mal dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai que peut-être la sortie de Ludovic Ajorc perturbe un petit peu les plans. Il est très, voilà, c'est un vrai point de fixation. Les appuis remis sont toujours de qualité. Le jeu aérien, évidemment, de qualité. Kevin Gamero est entré. Ça reste évidemment un très, très bon joueur, Kevin Gamero. Mais c'est un autre profil, un autre registre. Et peut-être que pour l'instant, il va falloir le trouver un petit peu différemment que ce qui a été fait en première mi-temps dans cette défense à 3 très, très costaud et très, comment je pourrais dire, dans l'impact. On va dire ça comme ça, du côté clermontois. Attention, l'arbitre, il va falloir aussi être vigilant parce que les duels sont de plus en plus durs hein, dans cette deuxième mi-temps. Ça y va d'un côté comme de l'autre. Il va peut-être falloir, du côté de monsieur Bollangier, suivre ça de près avec attention pour pas que éventuellement on dirait entre guillemets ça dégénère, même si l'état d'esprit est bon hein, sur le terrain. Mais disons que les duels, les impacts sont quand même plutôt costaud, voilà. Et encore une fois, voilà, une manchette, celle-là elle est pour Coffrier, voilà, sur Kevin Gamero qui était venu au pressing. Il aime bien sortir un petit peu les couilles. Il y en a eu un tout à l'heure sur Ludovic Ajorc qui n'avait pas été sifflé par l'arbitre. Cette fois, il va prendre un carton jaune. Kevin Gamero qui avait essayé de passer, de filouter un petit peu en passant par la gauche. Et Coffrier qui a mis le bras tout simplement et qui a allongé Kevin Gamero. Et ce sera un coup franc sur une sorte de petit corner à venir pour les Strasbourgeois. Voilà, on voit Manu, encore une fois, Coffrier, il aime bien mettre les bras.
Il y a le coude, hein.
Ouais. Ben ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il peut récupérer ce ballon tranquillement et voilà, il veut pas que Gamero récupère ce ballon qui passe devant lui, il met le bras.
Mais ça, c'est un peu comme tout à l'heure Seydou, pareil, les défenseurs clermontois parfois ils se compliquent un peu la vie inutilement parce que là il avait de l'avance. Il aurait pu être au ballon, le dégager, le taper en touche au-dessus de la tribune, peu importe. Et puis finalement, il attend. Et il se dit, ah bah mince, il y a un Strasbourgeois. Ouais. Et puis c'est trop tard, il faut intervenir. Et ça intervient maladroitement. Allez, petit corner, on va dire ça, donc pour les Strasbourgeois avec Jean Reckner, Bellegarde à la baguette. Il y a tous les Clermontois dans leur surface de réparation. Pas mal de Strasbourgeois aussi, évidemment. Ouh, c'est bien tiré, c'est pas mal tiré. Ce sera Magnin qui va la dégager et qui s'écroule immédiatement. Parce que j'ai l'impression qu'il l'a pris vraiment sur le haut du crâne. Il n'a pas vraiment pris avec le front. Il l'a pris en plein sur le haut du crâne. Il est un peu KO. Alors l'arbitre a sifflé une faute. J'ai pas moi l'impression qu'il y ait vraiment un contact quelconque. Peut-être sur la fin, si, sur la fin de l'action, il prend Djikou, vient un petit peu le percuter. Donc voilà, Magnin, il va falloir qu'il récupère un petit peu. Et les Clermontois qui, comme depuis le début de la rencontre, à chaque occasion, perdent des secondes, font tourner un petit peu le chrono. Je sais pas si voilà, ils ont l'impression d'être en match retour de Coupe d'Europe avec un 0-0 à défendre. C'est assez étonnant. Mais bon, c'est comme ça. On arrive à l'heure de jeu et toujours 0-0 entre Strasbourg et Clermont.
Mais non, on est bien en Ligue 1 à la méno pour ce Strasbourg-Clermont. À 15h, c'est le départ de la 16e manche du championnat du monde de Formule 1, Grand Prix d'Italie à Monza. On suivra tout ça évidemment avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc!
Et salut Flora, salut Manu, bonjour à tous.
17e pole position en carrière pour Charles Leclerc, même total d'ailleurs que Max Verstappen, son grand rival. Le tout, Jean-Luc, en plus, devant un public italien en folie.
Ah bah écoute, je pourrais te dire que les tifosi sont chauffés au rouge, évidemment, c'est la traditionnelle couleur de Ferrari que tu connais, mais il y a aussi du jaune, tu sais.
Mais oui, mais alors, célébrer. Tu sais quoi, je voulais t'en parler, parce que moi, ça m'interpelle quand même de voir cette combinaison jaune de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Il y a une histoire derrière tout ça ou pas?
L'origine.
Ah.
Et voilà l'origine, exactement. Je vois que Manu est bien renseigné, puisque tu sais, tout se perd toujours dans la nuit des temps.
Jean-Luc, j'étais à Monaco pendant quelques années et j'ai vu quelques Ferrari là-bas et jaune.
Absolument. Le jaune est l'autre couleur traditionnelle de Ferrari. Elle est moins connue, moins répandue, évidemment. Mais l'ingénieur, il préférait qu'on l'appelle l'ingénieur et Ferrari que le commendator, Enzo Ferrari, effectivement, avait choisi le jaune au début. Alors ça repose évidemment sur tout un tas de traditions, de même que le fameux Cavallino Rampante et qui était l'emblème qui figurait sur le chasseur d'un de ses amis et qui était pilote pendant la guerre et qui avait ce cheval dressé sur les pattes arrière sur la carlingue de son avion. Voilà pour l'histoire. Mais donc c'est le 75e anniversaire de la marque Ferrari en fait, hein, puisque la première Ferrari qui portait ce nom est sortie d'usine il y a 75 ans, la 125S de mémoire. Et donc on sait que Ferrari participe évidemment au championnat du monde de Formule 1 depuis sa création en 1950. Et d'ailleurs, la dernière épreuve de la première saison en 1950, il n'y avait eu que 7 épreuves cette année-là, et c'était à Monza, et c'est Giuseppe Farina qui avait été champion du monde sur une Alfa Romeo, voilà, pour être précis. Mais du côté des tifosi, ben je crois qu'on attend évidemment non seulement Charles Leclerc, qui, on le rappelle, avait triomphé ici en 2019.
Attention, Kevin Gamero à l'angle des 6 mètres sur la ligne. Oh, c'est pas possible. Incroyable. Oh là là. Oh, la chance incroyable du gardien clermontois, parce que ce ballon est repoussé sur la ligne. Ça revient sur Adrien Thomasson qui la reprend et il la met dans la tête de Moridio qui était lui déjà couché, déjà au sol. Mais quelle incroyable occasion, encore une fois, la frappe croisée. Il est battu. Ça revient sur Thomasson qui est déjà un petit peu en train de tomber et il tire dans la tête de Moridio qui est à 50 cm de lui. Le coup de chance, hein, le gros coup de chance. Ah,
c'est
là,
incroyable. Non, mais c'est incroyable, Manu. Alors là, je sais pas comment il n'y a pas but sur cette action.
On sait très bien ce que Benoît Paire aurait dit là-dessus.
Je ne le répéterai pas,
mais là-dessus, les Clermontois s'en tirent très très bien, on va dire ça comme ça, parce que l'occasion, elle est absolument énorme. On garde juste la main, parce que de l'autre côté, les Clermontois sont partis. Le centre à ras de terre, il y a glissade, peut-être il va la récupérer. Non, ce sera dégagé. 64 minutes de jeu, et toujours, de manière assez incroyable, 0-0 entre Strasbourg et Clermont.
Ouais, c'est en train de s'animer quand même du côté de la Méno. On revient au Grand Prix de Formule 1, Grand Prix d'Italie. Jean-Luc, on le disait, avec Charles Leclerc en pole position, Max Verstappen lui partira 7e après le jeu des pénalités sur un circuit quand même, on le rappelle, propice au dépassement. Du coup, on peut quand même s'attendre à une folle remontée du Néerlandais et surtout une bataille avec Charles Leclerc, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi.
Bien sûr, écoute, alors il faut évidemment, une nouvelle fois, je vais pousser mon petit coup de gueule traditionnel, tu le sais, contre ce règlement débile, avec 9 pilotes pénalisés sur les 20 qui sont sur la grille. Bon, je dois te dire que personne n'y comprend rien. La FIA, même s'y reprend à plusieurs reprises avant de nous sortir la grille définitive. Pour ce qui concerne Verstappen, c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc il avait signé, je suis obligé de me reporter aussi parce qu'on sait même plus où, le deuxième temps, voilà. Il part 7e par suite des pénalités donc qui lui ont été appliquées, puisqu'il a changé certains éléments mécaniques. Ça veut dire que sur la première ligne de la grille de départ, on aura bien sûr Charles Leclerc. J'évoquais 2019, juste avant l'intervention du foot, là, concernant la pole et la victoire de Charles. C'était la deuxième de sa carrière, qui faisait suite à sa première victoire en Formule 1 qui s'était déroulée à Spa dans des conditions dramatiques, on s'en souvient, avec le décès d'Antoine Hubert dans la course de Formule 2, qui était un de ses très très bons amis. Donc bref, à Monza, il y avait une marée humaine, une marée rouge, et on attend évidemment ça si la Scuderia ne commet pas d'erreur, parce que l'autre problème, il est là, c'est que, j'ai fait le compte ce matin pour les GG du sport, c'était le thème du débat, et je peux vous dire que en 15 Grands Prix, il y a 11 Grands Prix où il y a eu des erreurs, pour rester poli, de la part de la Scuderia Ferrari. Donc ça commence à faire beaucoup. Pour ne pas parler de la roue qui manquait la machine de Sainz, hein, lors du dernier. Là, c'est quand même le pompon. S'ils ne savaient pas qu'il y avait 4 roues sur les monoplaces de Formule 1, il faut quand même leur apprendre. Non, mais il y a un moment où ça devient tellement grotesque, on ne sait plus quel mot utiliser. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on en vient au positif. La remontée de Max Verstappen, je pense que, étant parti 14e à Spa-Francorchamps et ayant gagné la course, on peut s'attendre effectivement à une remontée canon de sa part. La machine est extrêmement performante. Encore une fois, il y a un seul arrêt qui est prévu, hein, normalement, dans toutes les stratégies possibles et imaginables, sauf s'il y a évidemment sortie d'un safety car. Et justement, il y a une statistique intéressante, c'est que si on prend les derniers Grands Prix entre 2014 et 2021, dans 50% des cas, il y a eu une sortie du safety car. Donc ça veut dire que l'avance peut être annulée et que dans ces cas-là, bien sûr, on repart entre guillemets de zéro. Alors là aussi, il faudra chez Ferrari qu'on pense à arrêter Charles Leclerc pour lui remettre des pneus neufs, parce qu'on avait fait en Grande-Bretagne, par exemple, où vous vous souvenez du jeu là aussi, il était leader. Tous les autres se sont arrêtés, sauf lui. Bon, il n'a toujours pas compris pourquoi, mais bon. Donc je pense qu'on a... Allez, on va dire qu'on a retenu les leçons chez Ferrari, on y croit.
Manu, il va être devant tout le public italien, il l'avait dit d'ailleurs Charles Leclerc en 2019 quand il avait remporté le Grand Prix, il avait dit j'avais jamais eu autant de pression de toute ma vie, parce que c'est vrai que ça pousse derrière lui quand même.
Oui, ça pousse derrière lui, mais la hauteur ça va être à son équipe de pas faire de bêtises, soit
par eux aussi ils vont avoir la pression, ouais, t'as raison.
Et la stratégie aussi qu'il faut mettre en place. Jean-Luc, est-ce que tu penses que Verstappen il va partir en soft ou en médium, comme il part un peu loin?
Eh ben, je peux te dire que c'est la bonne question. Moi, je le vois partir en médium. Parce que lui, si tu veux, vu les gens qui l'entourent, hein, il est au niveau de Nick De Vries. Alors, par parenthèse, on peut tirer un coup de chapeau formidable.
Oh, l'arrêt! L'arrêt de Mazzel, cette fois, de l'autre côté, après ce corner. Tiré très loin, deuxième poteau, la remise de Magnin et deuxième poteau. Je crois que c'est Seydoux qui était là, qui traînait, qui la reprend à bout portant. C'est pas terminé, Andrich, il va passer à côté. Oh, les deux grosses occasions, coup sur coup, là pour les Clermontois et ce ballon. Je le disais, Seydoux qui reprend à bout portant, deuxième poteau. Et là, c'est Mazzel qui vient fermer un peu à l'allemande, hein, comme ça, avec le torse pour repousser ce ballon. Ça s'anime, ça aurait pu rentrer côté Strasbourgeois, ça aurait pu rentrer côté Clermontois. Et on en reste à 0-0 après 68 minutes.
Comment on n'a pas de but encore dans ce match? On se le demande. Jean-Luc, c'est à toi.
Oui, juste pour le mot sur Nick De Vries, je le disais qu'il a sauté au pied levé, hein, c'est le cas de le dire, dans le baquet de Albon, parce qu'Albon a eu une crise d'appendicite malheureusement, donc il a dû abandonner son baquet samedi matin. Et Nick De Vries, qui n'était pas du tout prévu pour ça, même s'il avait fait la première séance d'essai libre dans le baquet d'une Aston Martin, en l'occurrence celle de Sébastien Vettel, eh bien on l'a appelé en catastrophe et il s'est très très bien débrouillé, puisqu'il s'est qualifié devant Nicolas Latifi avec la même voiture qui fait toutes les saisons depuis longtemps. Donc bref, Verstappen aura De Vries à ses côtés. A priori, il devrait pouvoir maîtriser ce départ. Il aura le chinois Zhou juste derrière lui. Et puis, justement, le dénommé Latifi derrière. Donc, moi, je pense qu'il partira, Manu, en médium. Maintenant, on va en avoir la réponse, parce que ça lui permet d'aller plus loin, évidemment. Et puis, compte tenu du fait que ses pneumatiques ne rendent qu'une petite demi-seconde aux pneumatiques soft sur un tour. Non, le problème, c'est véritablement le départ. C'est pour ça que je pense que du côté de Leclerc, Russell, Norris et Ricardo, au moins on va partir en soft, hein, parce que Pirelli a avancé une stat en disant que ça coûte à peu près 6 mètres à condition de départ identique. Si on part avec les médiums par rapport au soft, on perd environ 6 mètres avant la première chicane, la fameuse chicane d'Iretti Filo. Donc voilà, tu vois, pour répondre à ta question.
Dernière petite stat, Jean-Luc, et dis-nous ce que t'en penses, mais seulement un quart de ses pole positions à Charles Leclerc se sont concrétisées par une victoire de Grand Prix. Est-ce qu'on doit être inquiet pour le Monégasque, parce qu'il y a du retard en plus, hein, sur Verstappen, hein, au championnat du monde, hein.
Oui, là, je crois que même dans sa tête, tu sais, bon, il va se battre jusqu'au dernier virage du dernier Grand Prix, mais même dans sa tête, il sait que le titre, il n'y pense même plus. Il essaie d'aligner des victoires, ce qui est normal, et c'est comme ça qu'on avance. Alors, je le disais, lui va essayer de ne pas commettre d'erreurs. Il en a commis très, très peu. Il en commet très, très peu, encore une fois, par rapport à celle que commet son équipe. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on travaille en osmose, dans la meilleure ambiance possible. Et comme, évidemment, les adversaires, à commencer par Russell, hein, parce que Russell, lui, tire absolument le meilleur de sa monoplace. On s'en rappelle, hein, il a aligné, il a toujours été dans le top 5 depuis le début, à part évidemment l'accident au départ du Grand Prix de Silverstone, mais il a toujours terminé dans les 5 premiers. Donc c'est un pilote d'une constance remarquable, d'une intelligence remarquable, pour ne pas parler évidemment de l'équipe Mercedes. Donc avant déjà de repousser les attaques de Verstappen, qui arriveront avant la fin du Grand Prix à mon avis, il faudra déjà repousser celle de George Russell. Donc ça va être... Et puis je rappelle quand même que l'an dernier, c'est Ricardo qui l'avait emporté avec la McLaren devant Lando Norris. Donc les McLaren qui partent deuxième par le jeu des pénalités, elles sont pas si loin. Donc ça va faire un barrage orange entre guillemets à tous ceux qui arrivent de derrière, dont Pierre Gasly qui part sur la troisième ligne, Fernando Alonso qu'on n'oublie pas, qui part également sur la troisième ligne. Bref, il y a plein de raisons de ne pas rater ce départ. Je pense que ça va être absolument fabuleux. Espérons qu'il n'y aura pas d'accrochage, évidemment, dans le premier et dans la deuxième chicane, la variante de la Roggia. Voilà.
Effectivement, on sera en rendez-vous à 15h pour le départ de Grand Prix avec toi, Jean-Luc et Denis Chevrier. Évidemment, merci beaucoup, Jean-Luc. Rapidement, avec plaisir, on va à la méno. Le temps, le score, Sébastien Ruffet dans ce Strasbourg-Clermont. Ça se décompte de tous les côtés, là.
Ah, ça va dans tous les sens, mais on est toujours à 0-0 après 72 minutes ici à la méno. C'est incroyable, mais oui, il y a toujours 0-0.
On va revenir dans quelques instants à la méno et puis on fera le point sur le multi-ligue 1 qui vous attend à 15h dans l'Intégral Sport avec Benoît Boutron. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
14h36 dans l'Intégral Sport sur RMC. La 7e journée de Ligue 1 se poursuit avec Manu Amoreau. Ça va toujours, Manu?
Ouais, ça va très bien.
On suit ce Strasbourg Clermont du côté de la méno avec Sébastien Ruffet et on le disait, on ne sait pas comment dans ce match, il n'y a toujours pas de but, Seb.
Ouais, il reste un quart d'heure à jouer, toujours 0-0 et les occasions se multiplient, elles sont franches, elles sont nettes, elles sont sur la barre, elles sont sur le gardien. C'est vrai qu'on a eu quand même un gros arrêt de Matsels tout à l'heure, un petit peu plus de chance, on va dire, pour Moridio, mais fallait être bien placé quand même pour avoir de la chance aussi, on va le dire comme ça également. Et il y a eu pas mal de petits changements, notamment côté Pascal Gastier, on a changé toute la ligne d'attaque avec Dessous, Andric et Cham qui sont sortis, Raoui, Kei et Alivina sont entrés pour amener un petit peu de peps dans cette fin de match pour pourquoi pas exploiter une contre-attaque. C'est en tout cas ce que semblent attendre les Clermontois en faisant un petit peu venir ces Strasbourgeois pour essayer d'aller vite en contre. Et de l'autre côté, Colin Dagba a laissé sa place sur le flanc droit à Ronald Pierre-Gabriel. Et dans l'entrejeu, ça c'est une bonne nouvelle pour les semaines à venir pour les Strasbourgeois, le retour d'Ibrahima Sissoko et son grand gabarit au milieu de terrain. Il a remplacé Jean-Louis Daoulou, Sissoko qui était blessé depuis plusieurs semaines et qui a fait son retour dans l'équipe. On sait que c'est un joueur important, il est grand, il est puissant, c'est un très très bon récupérateur, gratteur de ballon et qui se projette très très vite vers l'avant. Il a lui aussi manqué dans ce début de saison pour les Strasbourgeois, et encore un changement à venir avec l'entrée en jeu de Lebo Motiba, le Sud-Africain, à la place d'Habib Diallo pour les 14 dernières minutes, toujours 0-0 Strasbourg et Clermont.
Manu, est-ce que les changements peuvent faire la différence là dans ces derniers 20 minutes, parce qu'il y aura du temps additionnel hein?
Oui, on peut le penser. Ça amène de la fraîcheur, ça amène beaucoup de choses à l'une et l'autre équipe. Mais voilà, il y a eu beaucoup quand même de maladresse, comme disait un petit peu Sébastien, beaucoup de réussite de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'est pas trop ennuyé quand même. La première mi-temps était un peu plus lente dans le jeu, dans l'accélération, dans le placement et le replacement. Alors que là, deuxième mi-temps, les deux équipes ont voulu aller chercher et ouvrir le score.
Ouais, ça cherche à faire mal rapidement, quoi. Dès la récupération, on sent que ça veut tout de suite faire mal. Alors qu'effectivement, en première mi-temps, on récupérait le ballon et puis on faisait tourner un petit peu pour temporiser un petit peu, alors que là voilà, dès la récupération on voit les Strasbourgeois ballon récupéré dans leur camp et tout de suite ça se projette très rapidement avec Pierre-Gabriel qui est passé là sur le côté droit. Allez, premier adversaire éliminé, est-ce que le centre va être bon vers Motiba? Bien joué Seydou là qui vient tacler pour intercepter ce ballon et tout de suite voilà, les Clermontois, c'est exactement l'illustration de ce qu'on vient de dire avec Alevina qui va éliminer, qui va peut-être trouver une solution, il va temporiser un petit peu pour chercher la balle sur le côté droit. C'est clair que ce match maintenant peut basculer clairement d'un côté comme de l'autre, alors que les Strasbourgeois ont quand même plutôt dominé cette partie, mais voilà, les Clermontois sont toujours là, ils sont à 0-0, ils sont à l'affût et ils ont également de la qualité offensivement pour venir, pourquoi pas planter un petit but en fin de partie. Bien malin celui qui peut nous dire avec certitude l'issue de ce match. 12 minutes encore dans le temps réglementaire et toujours 0-0 entre Strasbourg et Clermont.
La 7e journée de Ligue 1 qui se poursuit dès 15h avec le multi à suivre dans l'Intégral Sport avec Benoît Boutron. 4 affiches au programme, on va vous les présenter rapidement avec nos correspondants et d'abord Pierre-Yves Leroux pour Lorient Nantes. Salut Pierre-Yves.
Salut Flora, salut Manu.
Salut Pierre-Yves.
Deux équipes dynamiques bien différentes en ce moment.
Oui, certes, puisque les Lorientais sont sur un petit nuage, hein, 2 victoires consécutives face à Ajaccio et contre Lyon, une seule défaite depuis le début du championnat, 13 points sur 18 possibles. Il faut remonter, puisqu'on ne sait jamais, ils sont sur 2 victoires consécutives, pourquoi pas une troisième. Il faut remonter au 8 avril 2017 pour voir 3 victoires consécutives du côté de Lorient. Donc ça sera peut-être pour aujourd'hui cette égalisation de record qui date d'il y a 5 ans. Et puis c'est vrai, du côté nantais, c'est plus compliqué en championnat, un début un petit peu chaotique, mais une équipe qui reste aussi sur un nuage après cette belle soirée de Coupe d'Europe face à l'Olympiakos jeudi soir. c'était aussi parfait pour les Lorientais face à Lyon, avec une victoire ici, deux équipes qui enchaînent les matchs tous les trois jours. Donc on va voir comment ça se passe au niveau du terrain avec la fatigue qui peut se faire sentir un petit peu. On ne fait pas tourner du côté Lorientais, on fait un petit peu tourner du côté Nantais avec Ganago par exemple qui sera en pointe avec Simon et Guessant. Mais dernière petite stat, Nantes reste sans défaite sur les 12 derniers matchs officiels face à Lorient.
Lorient-Nantes, coup d'envoi à 15h tout de suite sur RMC. On parie sur cette rencontre.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Johan Guillet. Salut Johan.
Salut Flora. Salut, salut à tous. Salut Manu.
Quelles sont les cotes pour ce match?
C'est 2,40 la victoire de Lorient, 3,20 le succès de Nantes, 3,25 le match nul. Vous l'avez dit, les deux équipes vont réaliser une belle performance en milieu de semaine en Ligue 1 pour Lorient et en Ligue Europa pour Nantes. Et elles chercheront toutes les deux à bonifier ces résultats en ne perdant pas aujourd'hui. Il faudra aussi sans doute faire avec un peu de fatigue de chaque côté. Je vous propose donc de miser sur le nul sec à 3,25.
Manu, c'est quoi pour toi la bonne cote aujourd'hui?
Bah nul et les deux équipes marquent.
Enfin, nul avec les deux équipes qui marquent, on passe seulement à 3,90. Est-ce que tu veux éventuellement rajouter un buteur, Manu?
Guessant par exemple.
Très bien, je te trouve tout de suite le but de Guessant. Et ça monte à 12,50 tout de suite.
Voilà.
C'est pas vrai. Pourtant, il marque pas mal de buts.
Mais oui, Guessant, mais j'étais en train de me dire que je le trouvais pas parmi les premiers buteurs et que c'était bizarre, mais 12,50.
Ah ouais.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le multiligue 1 à suivre dès 15h dans l'Intégral Sport avec Benoît Boutron. Ajaccio Nice aussi au programme avec Jean-Philippe Scapula. Salut Jean-Philippe.
Bonsoir, salut, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Est-ce qu'il fait beau déjà, tiens, chez toi
encore. Il fait beau, il fait très beau et très chaud.
Ouais, Ajaccio.
Ça va être encore compliqué pour les 22 acteurs parce que depuis le début de saison, les matchs à 15h sont assez compliqués en Corse.
Bon, sinon, allez sur le terrain, t'as une minute pour nous vendre ton match. Ça devient urgent en ce moment pour Nice. Il faut prendre des points.
Ah ben l'urgence, elle est des deux côtés. Là aujourd'hui, ça peut être le mot-clé de ce match-là. L'urgence à la fois pour Ajaccio qui court toujours après sa première victoire en Ligue 1 cette saison, et l'urgence pour Nice qui, avec 5 points en 6 matchs, a besoin de remonter très vite dans les hauteurs du classement eu égard à ses ambitions. Côté ACiste, le travail du staff cette semaine a consisté à prendre exemple sur la saison 2011 du club où la CA promu n'avait pris que 9 points après 18 journées et la CA s'était maintenue en fin de saison avec 41 points. Donc pas de panique, y compris en cas de résultats défavorables aujourd'hui. Ça a été le message du staff. Je pense que la pression est aujourd'hui plus encore sur Nice, égard aux ambitions du club. Côté composition, à la CA, il y aura donc deux binômes inédits. Le premier, ça sera en charnière centrale parce que Mayembo et Gonzalez sont indisponibles. Ce sont Avinel et Clément Vidal qui seront titulaires, et devant Romain Amouma fait son retour après sa suspension et il sera épaulé par Johan Tousgar, la recrue côté niçois. C'est l'équipe annoncée avec un quatuor de feu devant Sofiane Diop, Nicolas Pépé et le duo reconstitué Laborde Delors. À noter que Andy Delors fait son retour dans son club formateur, c'est la première fois qu'il rejoint en Ligue 1 ici à François Coty, et je peux vous assurer que tout le stade craint le retour de l'ancien enfant chéri.
Merci beaucoup Jean-Philippe. La Ligue 1, on la suit en ce moment avec ce Strasbourg Clermont. Sébastien Ruffet.
Oh, attention, c'est chaud parce qu'on est sur un corner clermontois là, ce ballon qui va finalement être dégagé avec peut-être cette fois le contre qui va s'amorcer avec Kevin Gamero qui a la lutte. Aïe, il y a ce ballon qui va rester dans les pieds des clermontois qui vont tenter de repartir tout de suite, mais la porte se referme devant Gastien. On a eu très chaud à côté strasbourgeois avec ce centre de Raoui pour c'était Kiyi qui s'était jeté pour une tête plongeante, et deuxième poteau, Maxime Lormarchand qui se retrouve avec un ballon, il le contrôle, il sait pas quoi en faire, il est dans ses 6 mètres avec la pression dans son dos d'Alevina, et finalement Madsel qui tente un crochet, ce ballon qui file en corner, et sur le corner on a vu que ça avait pu être dangereux, surtout parce que là il y a un Clermontois qui est au sol, les Strasbourgeois continuent de jouer. Johan Gastien fait de grands gestes en disant on a un joueur là-bas qui est au sol, faut sortir la balle. L'arbitre lui n'a rien vu. Johan Gastien continue de lever les bras pour dire aux Strasbourgeois, pour demander de sortir le ballon, mais pour l'instant ça joue. Voilà, l'arbitre prend la décision finalement d'arrêter le jeu. Il aurait pu le faire un petit peu plus vite avant que Pascal Gastien, lui sur le banc, s'énerve un petit peu avec le quatrième arbitre. parce que c'est vrai que là il y a un joueur qui est resté au sol. Alors qui est resté au sol,
c'est l'arbitre qui est maître du jeu, hein, c'est lui qui décide ou pas, hein, c'est pas Gatien ni au joueur, hein.
complètement, surtout que les Clermontois ont d'abord continué à jouer eux. Donc ouais, pourquoi les Strasbourgeois devraient eux sortir le ballon?
Exactement.
À partir du moment où ils le récupèrent, si les Clermontois eux ont joué avec un de leurs coéquipiers au sol. Donc voilà, bon, mais en tout cas effectivement l'arbitre aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Ça évite les petites crispations. On va voir ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est sur le coup de pied arrêté précédent, est-ce qu'il y a eu un choc ou quelque chose. En tout cas voilà, il va rester 6 minutes et je suis un petit peu ce qui se passe parce que j'ai l'impression que malheureusement il y a une bouteille aussi qui a été jetée à destination du Clermontois et l'arbitre demande qu'on lui remette cette pièce à conviction, on va dire, alors que Matzès l'avait sorti du terrain. Et ça va pas arranger les relations, la relation d'affection entre monsieur l'arbitre et le public de la Méno, alors qu'il reste, allez, on va tourner, hein, 5 minutes encore à jouer ici et on demande la civière pour le joueur qui est resté au sol là-bas. 0-0 entre Strasbourg et Clermont et ça s'échauffe évidemment les esprits.
Le Multiligue 1 à 15h, on vous a présenté deux affiches déjà. On va suivre avec David Felippo, Angers-Montpellier. Salut David.
Salut Flora, salut Manu, salut tout le monde.
Toujours pas de victoire, hein, cette saison pour Angers.
Oui, alors tu demandais tout à l'heure comment vendre le match. Moi, je vais vous le vendre ce match. Il va y avoir une kyrielle de buts. C'est tout simple. Angers est 19e, n'a pas gagné un seul match, tu le disais, depuis le début de la saison. 2 nuls et 4 défaites et surtout 15 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Montpellier, 7e, c'est simple. Depuis le début de la saison, c'est victoire ou défaite. Il n'y a pas de match nul. Et puis surtout, ils ont gagné, les Montpelliens, 7 buts à 0 du côté de Brest. Voilà, moi cet après-midi, je vois énormément de buts du côté du stade Raymond Coppa avec la première titularisation du côté du SCO du joueur sénégalais, l'attaquant sénégalais Abdallah Sima, prêté par Brighton.
On sera en rendez-vous évidemment dans le Multiligue 1 avec l'intégral sport de Benoît Boutron. La dernière affiche entre Toulouse et Reims, Nicolas Paolorti. Salut Nico.
Salut Florence, salut, salut Manu, salut à tout le monde.
Oh là là, c'est la chaude ambiance chez toi, j'ai l'impression. Oh,
comme
là.
Toujours, à chaque fois. Toulouse, c'est le feu maintenant. Toulouse, c'est le feu. 20 000 supporters attendus au stadium et je vais vous donner envie de suivre ce match tout simplement parce que Toulouse doit absolument gagner. Manu, on avait une vraie hype autour du TFC en début de saison qui avait pris 5 points lors de ses 3 premiers matchs, sauf que là il reste sur 3 défaites consécutives les Toulousains, donc victoire impérative, en tout cas c'est ce qu'on ressent vraiment en interne aujourd'hui pour se rassurer face à une équipe de Reims qui est dans la dynamique complètement opposée du TFC où ils ont plus perdu depuis 4 matchs. Alors une victoire et 3 matchs nuls certes, mais c'est très costaud du côté de Reims qui a su mettre en difficulté l'Olympique Lyonnais et des gros du championnat. Donc ça va être une rencontre très intéressante à suivre dans une superbe ambiance. Il fait très chaud également aussi à Toulouse, ça va jouer, hein. Plus de 32 degrés cet après-midi, hein.
Oui, bah ça va, vous avez de la chance dans le sud,
c'est
on
pour
le
faire
sait.
Un peu rager ça.
Voilà, merci beaucoup. <C'est fait. rire> Nico, à tout à l'heure, 15h pour le coup d'envoi de ce multi. Manu, on a présenté les 4 affiches au programme. Toi, laquelle t'aguiche le plus aujourd'hui?
Bah, Toulouse-Reims. Je crois que, comme
on disait. Ah ouais, tiens, j'aurais pas misé sur ça, c'est marrant.
Ah ouais, tu aurais misé sur quoi?
Je sais pas, peut-être, peut-être Lorient-Nantes, ou alors le rebond attendu de Nice, je sais pas.
Ouais, non, moi, je préfère Toulouse-Reims, parce que Toulouse, comme disait Nico, trois matchs perdus, Reims qui est une belle équipe, et qui, joue bien au ballon, et marque beaucoup de buts, donc, ça peut être un match très intéressant à voir.
Eh bien, on suivra tout ça évidemment dès 15h dans le Multiligue 1 avec Benoît Boutron. Mais en attendant, le premier match de cette journée se termine du côté de la Méno entre Strasbourg et Clermont. Sébastien Ruffet, a priori il va y avoir pas mal de temps additionnel, hein.
Ouais, je pense, ouais. Là, on est à la 88e et beaucoup de temps additionnel forcément avec cette blessure de Jérémy Bella qui se tient la côte, hein, j'ai l'impression, à suivre dans les prochains jours, hein, voir un petit peu les conséquences. Il est sorti sur ses pieds, il y aura un carton rouge pour Maxime Lemarchand qui prend un deuxième carton jaune dans cette fin de match là-bas sur le côté gauche de la défense. Il est un petit peu en retard dans son intervention, il avait déjà pris un jaune plutôt discutable en première mi-temps, mais cette fois c'est le deuxième qu'il est un petit peu moins. Les Strasbourgeois vont finir à 10 comme s'ils avaient besoin de ça encore une fois. Et pour revenir sur ce jet de projectile, c'était pas une bouteille, c'était un gobelet en plastique. Aujourd'hui on utilise les Eco Cup, hein, vous savez, gobelet réutilisable, un gobelet vide qui arrivait sur la pelouse. Bon voilà, ça risquait pas de faire grand mal, mais un rappel à l'ordre évidemment a été fait par le speaker en disant: premier avertissement, prochain jet de projectile, quel qu'il soit, le match peut être arrêté. Donc voilà, on ne doit rien jeter sur une pelouse de football en Ligue 1 ou quel que ce soit en district. Ça n'a rien à faire.
Mais Sébastien, si pourquoi on dit il peut être arrêté? Il doit être arrêté.
Oui, mais disons que là, c'était voilà, il y a eu.
C'est vrai que c'est un petit gobelet, mais ça aurait pu être une bouteille d'eau pleine, et puis ça aurait pu toucher un joueur et arrêter le match directement. Pourquoi attendre toujours ou laisser une opportunité que encore on puisse blesser encore un joueur, quoi.
On va vivre la fin de ce match dans quelques instants, et puis le coup d'envoi du Multi Ligue 1 et le départ du Grand Prix. Il y a encore plein de belles choses à vous proposer. On revient dans quelques secondes.
RMC
Intégral Sport.